tout simplement puisque les agents n'ont pas tous accès à un ordinateur. Les horaires d'ouverture du public restent inchangés, donc sauf pour l'accueil et le standard qui commencera à 13h et ouverture de l'état civil à 9h30 le mardi. Donc il y a eu également des points soumis à l'arbitrage des élus, notamment l'accomplissement de la journée de solidarité. Donc on a souhaité maintenir les modalités de réalisation actuelles, c'est-à-dire que les agents peuvent redonner, donc un agent à temps plein doit redonner 7 heures sur une année au titre de la journée de solidarité. Voilà pourquoi parfois on parle de 1600 heures et 1607 heures. Donc en fait, on est resté sur les mêmes règles, donc ils peuvent alimenter et redonner ces heures via l'accomplissement d'heures supplémentaires. Les jours de sujétion, donc pour ceux qui sont soumis à des conditions particulières de travail, donc l'idée c'est de les déduire du nombre de jours travaillés dès le début de l'année. Voilà. Au lieu de les redonner sous forme de congé, on a préféré dire, voilà, si l'agent peut avoir un, deux, voire trois jours de sujétion, dès le début de l'année, on préfère les déduire. Donc ce règlement intérieur a été présenté à la commission RH du 19 octobre 2021 et n'a pas appelé de remarques ni d'observations particulières. Il a été soumis pour avis au comité technique donc, du 22 octobre 2021. Alors, les représentants du personnel se sont abstenus. Alors, ils se sont abstenus puisqu'effectivement, ils ont des réticences quant à l'application du règlement intérieur, ce qui est tout à fait légitime. Donc, du coup, ce qu'on leur a proposé, c'est une clause de revoyure où on a déjà planifié une première réunion en février 2022, justement pour évaluer la mise en place du passage aux 1600 heures. Donc, ça, c'est une première étape. Mais effectivement, on sait que les organisations évoluent, on sait que des activités nouvelles peuvent arriver, peuvent être modifiées, etc. Et donc on souhaite conserver ce système de groupe de travail qui pourra se réunir autant que de besoin, justement pour réajuster donc les règles qui sont définies. Et en cas de réajustement, bien évidemment, cela devra être soumis pour avis au comité technique. Voilà, parce que l'idée, encore une fois, c'est un gros dossier, le temps de travail. Ça fait une année que l'on travaille dessus, mais le dialogue ne s'arrête pas au 31 décembre 2021. Le dialogue doit continuer à vivre. Et pour que ce dialogue puisse continuer à vivre, il faut qu'on puisse l'évaluer régulièrement. Et donc, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'adopter le règlement intérieur temps de travail qui vous est présenté ce soir.
Merci, Monsieur Cantarin. Donc, on reprécise que les membres du comité technique étaient favorables à ce que contient le règlement intérieur et qu'effectivement, ils se sont réservés le droit de veiller à son application de façon stricte dans l'ensemble des services. Et c'est pour ça qu'ils se sont abstenus, mais en aucun cas parce que le contenu du règlement intérieur ne leur convenait pas. Voilà. Michel était présent.
Oui. Alors, je voudrais dire quelques mots sur... D'abord vous féliciter, très sincèrement, puisque entre le point de départ et le point d'arrivée, les améliorations ont été notoires. Donc ça ne me pose pas de problème, et je l'ai dit d'ailleurs au CTP, j'ai pas de difficulté avec la méthode, mais j'ai une difficulté avec la loi. Parce que, une fois de plus, les collectivités sont dans l'entonnoir par une loi qui a été votée. Par contre, on oublie complètement le point d'indice. On oublie complètement l'augmentation des salaires. Autrement dit, c'est la loi du travailler plus pour gagner moins. Mais vous êtes pour rien. Mais c'est la loi du travailler plus pour gagner moins. Indéniablement. On peut... Alors, il faudra m'expliquer comment on fait plus d'heures avec le même salaire. Si on ne travaille pas plus, on gagne moins. D'autant plus que le point d'indice n'ayant pas été revalorisé depuis 4 ans, maintenant, la fonction publique territoriale est vraiment à des conditions salariales qui vont devenir la minima, elle parle surtout de la catégorie C. En tous les cas, le travail que vous avez fait a été bien fait. Donc, je ne veux pas être plus long parce qu'il y a des choses à développer là-dessus, mais c'est une maladie des gouvernants de faire en sorte qu'on mette les collectivités. Il n'y a pas de confiance faite aux collectivités. Pourquoi y avait-il eu une négociation que j'avais menée moi-même, d'ailleurs même à la demande de mon prédécesseur, sur ce sujet, mais sous son contrôle? Pourquoi y avait-il eu des conditions un peu plus favorables que la loi? Mais pour ce que je viens de dire, à savoir que quand on est sur des conditions à Guéret, je l'ai dit aussi au CTP, malheureusement, nous ne pouvons pas offrir aux salariés un régime indemnitaire qui soit totalement satisfaisant. C'est la réalité. Et donc, on avait trouvé des aménagements. Mais là, on est un peu corseté, serré. Et vous êtes obligé d'appliquer une loi que je n'aurais pas votée si j'avais été parlementaire. Mais elle existe. Donc, en vertu de ça, et pour pas gêner les choses, je m'abstiendrai également, mais je veux que soit bien précisé que ce n'est pas par rapport au travail que vous avez fait et à la négociation que vous avez menée, notamment en permettant à ceux qui partent à la retraite de continuer à bénéficier des 15 jours qu'ils ont avant de partir, qui ne coûtent pas un sou parce qu'on ne les remplace pas immédiatement, mais je crois que vous avez été sensibilisé. Et puis, avoir aussi une pensée pour les représentants du personnel, je crois, qui ont été, dans cette affaire-là, particulièrement responsables à vos côtés. Et M. Contarin, vous, personnellement, je tiens à vous féliciter pour cette gestion, et ainsi que la majorité. Voilà. Mais donc, moi, je m'abstiendrai.
Merci, M. Vernier. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Oui, monsieur Delettre.
Oui, juste brièvement pour abonder dans le sens de monsieur Vernier, juste simplement féliciter tous les acteurs de cette négociation parce qu'on se doute que c'est un travail extrêmement conséquent et que d'obtenir l'aval de l'ensemble de ces acteurs, c'est dire sans doute la richesse des échanges qu'il y a dû y avoir. Donc félicitations à vous, au service et aux représentants du personnel et aux salariés qui ont contribué.
Merci. Puis comme vous l'a dit M. Contarin, donc on garde le groupe de travail vivant pour l'évaluation de la mise en place de ce dispositif et du règlement intérieur. Et donc on reviendra régulièrement devant cette instance pour dire où on en est de cette application du règlement intérieur. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Et Gilles Brunati, ça fait 4. C'est bon pour les services? Madame Robert. Oui, on a noté donc 4 abstentions, on est bien d'accord. Voilà, je vous remercie. Alors peut-être en conclusion de ce conseil municipal, une ou deux informations, et puis si vous souhaitez intervenir, bien sûr, la parole vous sera ouverte. Vous dire que le dossier piscine avance à grands pas. L'avant-projet sommaire donc est bouclé. On entre en phase d'APD et donc au conseil municipal de décembre, on pourra vous montrer un film en 3D de ce que sera la nouvelle piscine qu'on espère bien ouvrir donc pour la rentrée 2022. Donc les choses avancent et on sait maintenant totalement où on va. Donc en décembre, on vous projettera la vue de la nouvelle piscine telle qu'elle pourra être construite. Je passerai la parole. Alors, oui, enfin, je peux vous répondre. Les travaux qu'on envisage donc sur la refonte du toit et des côtés de la piscine, donc la totalité de la structure qui entoure la piscine, va être une structure qui va tenir une cinquantaine d'années. Le problème, c'est que les bassins ne tiendront pas 50 ans, bien loin de là. Les bassins, on leur donne une durée de vie de 6-7 ans. Donc, c'est une structure qui sera réutilisée après, d'une autre façon, puisque la structure va être, perdurée. Et donc, on aura juste, on condamnera les bassins et on fera autre chose de cette structure, mais elle sera toujours là dans 50 ans. Voilà. Je vais passer la parole alors à Madame Tondouf pour qu'elle nous redonne quelques éléments sur Citadia et sur les... Non, tu veux que je le fasse ? Tu as l'air d'être un peu surprise. Juste sur les ateliers de concertation qu'on met en place par rapport à l'étude Citadia. Donc tu me dis si tu veux que je le fasse. Et puis je demanderai à Monsieur Viennois de nous faire un petit point aussi sur les opérations menées avec Evolis. Corinne, tu nous dis deux mots sur les ateliers, c'est pas un souci.
Oui, donc les ateliers, donc deux dates ont été retenues donc pour proposer ces ateliers. Donc la première des dates est donc le lundi 29 novembre à 18h, où donc là seront évoquées les destinations des différentes places de Guéret, donc place Bognot, place du Marché, place Varillas. Voilà, donc ces idées d'ateliers de concertation nous ont été donc proposées par le cabinet conseil. Donc deux dates différentes, pourquoi ? Parce que le 1er décembre, cet atelier-là donc, est proposé à 14h parce que concerne un peu plus le jeune public, puisqu'il s'agira sur cet atelier de la plaine de jeu et de la destination donc, de cet espace. Voilà.
Très bien. Donc pour rappel, Citadia, c'est le cabinet qui nous accompagne sur tout ce qui est de la rénovation urbaine.
C'est ça.
Et du travail donc sur les flux des Guéretois, sur leur cœur de ville et sur l'aménagement des différentes places du cœur de ville. Donc concertation avec les habitants et concertation avec les jeunes.
Avec les jeunes.
Voilà. Avec les jeunes de la ville.
Sur la place de jeu, je ne sais pas comment tout prendre là.
Oui.
Il faudra penser à associer le lycée.
Oui, mais c'est oui. Fait. Louis, oui, Pierre Bourdon,
oui.
Bien sûr.
Oui. Oui.
Oui, on a contacté les écoles, on a contacté les étudiants de l'IUT. Monsieur Delattre aussi, on lui a demandé d'être intermédiaire au niveau de ses propres étudiants. Les jeunes sont contactés par le local jeune dans le quartier Albatros et en ville.
C'est ça, donc on a utilisé les relais aussi.
On a essayé de toucher tous les jeunes qui, à un moment ou à un autre, seraient... utilisateur de...
Il était déjà utilisateur de cet espace ou pourrait être utilisateur de cet espace. Oui.
Et puis il y aura un micro-trottoir aussi pour compléter pour ceux qui ne souhaiteraient pas venir en réunion. Monsieur
Alors
Delattre.
Surtout pour les jeunes qui n'auront pas de passe sanitaire et qui ne pourront pas aller au local ado pour cette réunion. Donc il y aura un micro-trottoir qui sera fait par les agents devant l'espace Fayol.
J'ai dû voir passer l'information, mais elle m'a échappé. Donc pour le mercredi après-midi, c'est 14h, mais le lieu ?
À l'espace Fayol.
L'espace Fayol, d'accord. Ensuite, là, vous venez d'évoquer l'information qui a été transmise aux établissements. Je pense qu'il faudra vérifier que cette information est bien descendue, parce que moi, je suis passé voir la vie scolaire, justement, ce matin, pour les inciter à faire participer les élus du CVL et des représentants tout particulièrement de l'internat qui se trouve juste à côté. Et le CPE avec lequel j'ai discuté semblait clairement découvrir l'information. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, il va la transmettre aux représentants des élèves, au CVL. Oui, enfin, sauf que manifestement, le proviseur a dû être informé déjà. Mais enfin bon, ceci étant, je pense que si ça se fait directement par la vie scolaire, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc on va voir comment est-ce qu'on peut avoir des représentants des élèves de Pierre Bourdon. Mais pour le coup, je m'interroge sur le fait que peut-être ces informations ne sont pas descendues au niveau du lycée Jean Favard, par exemple. Hein, parce que si l'information est aussi mal passée qu'au lycée Pierre Bourdon, on risque de se retrouver sans représentant des élèves de Favard.
Et peut-être vous assurer également, enfin j'imagine que vous l'avez fait auprès des services de la préfecture, que la nécessité de contrôler le pass sanitaire pour une réunion de concertation citoyenne, c'est peut-être pas forcément le cas, parce qu'il faut bien différencier parfois la notion de pass sanitaire pour accéder à un établissement recevant du public pour des activités culturelles et de loisirs, et une concertation citoyenne. Peut-être que pour les ados, il y a peut-être moyen d'éviter ce contrôle, avec le respect bien sûr des gestes barrières, masques, etc., mais... Peut-être à vérifier, est-ce que c'est dommage une concertation citoyenne où on exclut une partie du public et bien évidemment le public parfois le plus concerné.
Alors c'est pas possible.
Je suis, oui. Non.
Oui. Ouais. Les services ont consulté la préfecture et c'est pas possible. On est dans un ERP et donc le pass sanitaire est obligatoire.
Oui, après moi j'ai des gens qui m'ont demandé, qui habitent en face, qui habitent dans les résidences en face, et qui m'ont demandé s'ils pouvaient y aller. Parce qu'on a des... Alors, je dis ça parce que bon, c'est mon côté sécurité, et on a des soucis déjà avec le parking de la BMI, où les gens d'en face se plaignent du bruit, se plaignent des activités justement des jeunes, etc. Donc si on lance un truc sans avoir l'avis des gens qui vivent autour, et s'ils se plaignent à 9h30 au commissariat qu'il y a du tapage nocturne, ça ne peut-être pas le faire, donc il faudrait peut-être les contacter aussi, ceux-là.
Alors, vas-y, pardon.
Oui, ça n'est fermé à personne, hein, de toute façon. Voilà, c'est prioritairement... C'est vrai qu'on a ciblé le public jeune parce que ce sont eux qui utilisent l'espace, mais ça n'est fermé à personne.
On a juste choisi le jour pour que les jeunes puissent participer. Mais tout le monde peut participer à cet atelier. Monsieur Correa demande la parole depuis un petit moment.
Oui, pas de souci, mais ça a déjà été fait. Mais est-ce qu'il serait possible de nous rappeler les dates par mail aux élus? Mais vous l'avez déjà fait, hein, donc je veux dire, c'était juste par rapport à un rappel, parce que parfois, effectivement, ça se noie dans le nom de domaine. Et puis la deuxième chose, effectivement, moi j'ai bien noté, comme vous l'avez dit, que c'était ouvert, donc les personnes qui habitent en face peuvent se déplacer et venir. Et je rappelle juste aussi vous l'avez certainement aussi ciblé, il y a une association des étudiants post-bac sur Guéret qui existe, qui s'est ravivée, et qui comprend des étudiants de l'Institut de soins infirmiers, mais également de l'ESPE, de la licence domotique, des BTS, FAVAR, etc. Cette association-là existe. Voilà, donc elle regroupe les étudiants. C'est beaucoup, comment ça s'appelle, Aliso, voilà, qui est aussi un relais avec eux, mais j'imagine que vous les avez déjà mis dans la boucle. Voilà, c'est tout.
Oui, Aliso a été contacté par le biais du CAVL, et puis l'association des étudiants a été contactée. On va on est en train de vous faire les photocopies des deux invitations, comme ça vous repartirez tous avec. Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur ces deux journées de concertation? Non? Guillaume, tu veux nous faire un petit retour du travail
avec Evolis? Pour terminer, effectivement, avec Evolis, donc certains ont pu le constater, depuis plusieurs semaines, donc on travaillait avec Evolis, avec les services de nettoyement, puisque comme vous l'avez déjà noté, pour poursuivre ce qui avait pu être fait à un moment donné, les agents de la ville continuent au quotidien d'aller ramasser lorsque le choix a été fait d'aller ramasser lorsqu'il y a des dépôts sauvages et des dépôts de déchets donc irréguliers sauvages, c'est quand il n'y a pas à proximité de point de collecte. Donc on avait travaillé effectivement avec Evolis, avec donc les équipes, avec le commissariat, dans l'idée de pouvoir envisager une semaine d'opération pour essayer de comprendre, de sensibiliser, puis d'aller vérifier un petit peu les causes de déchets sur des dépôts sauvages. Donc nous en avions évidemment parlé avec Evolis, avec les agents et avec le commissariat. Nous n'avions pas communiqué sur cette opération. Elle a débuté, elle s'est déroulée la semaine dernière. Pour votre information, donc je remercie effectivement les agents. Il y avait un agent d'Evolis qui pouvait donc relever faire les fouilles et ensuite dresser procès verbal. Des élus donc ont participé au quotidien le matin, donc du lundi au vendredi, et l'après-midi il y avait un débriefing qui était fait pour savoir ce qui avait pu être trouvé, rencontrer les gens quand on pouvait sur des fouilles, lorsqu'on avait de pouvoir rencontrer. Il y a eu 200 sacs d'ouverts. Alors différents points qui ont évolué au fil des jours, parce qu'on repartait sur certains points ou sur d'autres. Il y a eu 200 sacs de fouillés et il y a eu sur ces 200 sacs 33 personnes qui ont été informées de dépôts de sauvages d'ordures. Voilà. Avec, dans un premier temps, c'était d'essayer de comprendre alors les sources, d'essayer, c'était pédagogique, il faut savoir qu'il y avait quand même 3 personnes récidivistes aussi. Donc c'était bénéfique pour comprendre, pour communiquer, pour essayer de savoir. Nous allons continuer parce qu'effectivement le coût que ça représente pour les agents, pour nos équipes, pour la ville de Guéret, du nettoyage au quotidien, est difficilement en termes de moyens humains, de moyens matériels, de moyens financiers, difficilement compliqué. Mais voilà, c'est compliqué pour Evolis aussi, donc on essaie, bien que ce ne soit pas notre compétence, mais en tout cas de faire en sorte que la vie, de les accompagner pour essayer de comprendre et de trouver les réponses et d'essayer de faire disparaître ces déchets. Voilà, donc ça se poursuivra, on dira pas quand, bien évidemment, mais c'était, je crois, une opération fructueuse et instructive. Il y a de tout, et puis il y a de tout, et je voudrais le dire parce qu'effectivement c'était une des aussi de, on dira pas comment effectivement les opérations de fouilles ont été menées, pour pas donner le mode d'emploi, mais c'est pas une surprise, hein. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas dans ces rues-là qui viennent déposer, et c'est vrai qu'on a voulu stigmatiser, on a entendu stigmatiser effectivement par rapport à certains habitants de la ville, c'est pas cela, voilà, sur ce qu'on a pu découvrir aussi. Je m'arrêterai là, mais je voulais quand même le souligner parce que c'est un peu effectivement réducteur de pouvoir imaginer que la réalité du terrain, c'était voilà, des gens qui déplaçaient et qui venaient poser.
Juste, Guillaume, alors, est-ce que vous avez un premier bilan de en discutant avec les habitants, des raisons pour lesquelles, parce que beaucoup ont été évoquées, de l'incompréhension du fonctionnement, les cartes qu'on n'avait pas parce qu'on était locataire, on venait d'arriver, etc. Qu'est-ce qui en ressort globalement?
On a fait un débriefing vendredi, donc on a eu les premiers résultats, on va les affiner, c'est-à-dire d'essayer de répartir, on pourra vous faire une présentation, puis l'opération va se poursuivre dans un temps certain, mais ce qu'on a pu voir, et pour y avoir participé à titre personnel, on a eu par exemple une personne qui venait de s'installer depuis 3 semaines et qui manifestement avait demandé à l'agence de pouvoir obtenir une carte, elle n'avait pas de réponse. On a aussi beaucoup de personnes qui savent, mais voilà, par facilité, qui vont déposer parce qu'ils la mettent dans la voiture, et puis quand ils voient un sac, ils en posent un dessus. On a aussi des gens qui sont au courant, qui ont des cartes et à qui c'est plus simple. Et puis il y a un peu de tout, mais il y a quand même pas mal de gens qui savaient que ça se faisait pas comme ça. Voilà. Mais donc on va pouvoir affiner sur les 33 d'avoir un peu plus d'idées. Il y a des gens qui savent et qui sont récidivistes. Il y a des points sur lesquels on est repassé. Et les sacs appellent les sacs, hein, de toute façon. Donc voilà. Mais dès qu'on en saura, on pourra avoir une petite présentation. Plus affiné.
Bon, puis la prochaine tournée, je veux bien participer. Hein.
Ça prend énormément. Enfin, de dresser procès verbal, et ce qui est compliqué ensuite, c'est d'en faire quelque chose par le commissariat, parce que, il faut. Mais pas de problème.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres sujets?
Une info, parce qu'on était ce matin à la préfecture pour le plan particulier pour la Creuse. Et j'ai questionné la DGFIP sur l'arrivée des emplois Bercy, puisqu'on a monté ce projet Ville de Guéret, département, il y a quelque temps. Et donc, M. Boulet nous a annoncé qu'effectivement, les 10 premiers emplois seraient bien au rendez-vous à partir de 2021 avec une prise d'effet début septembre.
En juin 2022, c'est ça.
2022.
Oui, c'est ça.
2022, arrivé à la fin du printemps 2022 et prise de fonction parce qu'il faut qu'il prépare un certain nombre de choses, mais que on arriverait bien peut-être aux 22-23 emplois localisés et non pas délocalisés sur IRE. Donc, puisque ça a été dit officiellement ce matin, on peut le redire.
Si vous permettez, les 22 emplois qui vont arriver ne pallieront pas les pertes d'emplois qui ont eu lieu depuis 10 ans dans cette administration.
C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaitiez aborder ou d'autres informations à donner ? Oui ?
Alors, c'est une information qui est plutôt assez personnelle, mais comme ça concerne quand même la délégation sur laquelle je suis, c'était simplement vous faire passer l'info parce que j'en ai pas parlé et j'ai fait ça un petit peu, personnellement comme je fais d'habitude. Je suis en train de fermer mon activité professionnelle. Voilà, c'est vrai que ça fait quelques mois où tout le monde ne le sait pas, mais j'ai quand même des gros pépins de santé. Donc c'est vrai que j'ai pas été très présente sur ma délégation là depuis 6 mois. Ça a été un petit peu compliqué. Voilà, et donc dans la symbolique, c'est comme ça que j'avais ouvert ma boutique avant de devenir élue. Voilà, donc maintenant que je le suis, autant continuer et en profiter. Donc en fait, je viens d'offrir 130 cartons sacs de dons de vêtements et d'accessoires à diverses associations. Voilà. Je vous regarde, Monsieur Vernier, parce que la dernière fois, on parlait des migrants. Voilà. Alors moi, j'emploie plus ce terme depuis longtemps. J'emploie plutôt le terme de réfugiés. Je trouve que c'est quand même plus... Et donc, des sacs sont partis pour énormément d'associations, Anima, le foyer Creusot, CADA, CHRS, Viltaïs, l'association des paralysés de France, les détenus, enfin bon, j'en passe. Mais il y en a effectivement pour tout le monde. Et donc, les derniers cartons viennent de partir et ça va permettre justement à un public de pouvoir se réchauffer pour l'hiver. Voilà.
Merci Christelle. Bien, est-ce qu'on conclut ce conseil municipal ou est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.